Radio Louise Michel.
La radio des collégiens de Gorges.
Radio Louise Michel, des blagues, des musiques, des infos, des interviews et encore plein d'autres choses sur Radio Escapade.
Bonjour à tous.
On va vous présenter plein de chroniques. Il y aura de l'histoire-géographie, des histoires creepy. Bon, sur ce, on vous laisse avec Lola et la Dame Blanche.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma chronique sur la Dame Blanche. Je tiens à vous prévenir d'avance que si vous n'avez pas peur des histoires paranormales, n'hésitez pas à éteindre les lumières et à fermer les volets. On va commencer tout de suite avec une question qu'on s'est beaucoup posée. Quelle est l'histoire la plus connue de la Dame Blanche en France ? L'histoire de la Dame Blanche la plus répandue en France est l'autostoppeuse du bord de route. De nos jours, l'autostoppeuse est l'histoire de la Dame Blanche la plus ancrée en France. Apparue dans l'Hexagone dès les années 60, ce mythe terrifie certains automobilistes qui s'aventurent sur les routes en pleine nuit. D'ailleurs, je vais vous réciter cette légende. L'autostoppeuse fantôme est une légende urbaine, dans laquelle une autostoppeuse, généralement une jeune femme habillée en blanc, mais aussi parfois une femme âgée, fait de l'autostop la nuit et disparaît brusquement après être monté dans un véhicule, soit à l'approche d'un passage dangereux, soit en arrivant à une adresse donnée. Ce phénomène est connu un peu partout dans le monde et est généralement considéré comme appartenant aux légendes urbaines. Il existe à travers le monde un grand nombre de récits de ce phénomène. Didier Audino aurait recensé 297 cas, répétitifs pour 75% d'entre eux, se produisant davantage dans certaines régions. Maintenant, on va essayer de savoir quelle est la vraie légende de la Dame Blanche. D'après ce que j'ai trouvé, la vraie légende serait la Dame Blanche de Puy-Martin. Cette légende retrace la vie de Thérèse de Sainte-Claire, qui fut emprisonnée dans la tour nord d'un château. En effet, au XIVe siècle, Thérèse de Sainte-Claire, surprise par son époux de retour de guerre dans les bras de son amant, fut emprisonnée ici. Son mari, jaloux, tua l'amant, et l'épouse infidèle, fut emprisonnée pendant de nombreuses années. Depuis, Puy-Martin est réputé comme étant un château hanté. Et à présent, je vais vous raconter l'arrivée de la Dame Blanche. Mais avant de commencer, il faut que je vous informe que c'est difficile de trouver la véritable histoire de la Dame Blanche. Déjà, sa seule évocation suffit à provoquer quelques frissons. Née dans les récits du Moyen-Âge, la Dame Blanche est toujours aussi glaçante. Si son potentiel effrayant n'a pas bougé, la légende a, elle, beaucoup évolué, car, comme nous avons pu le voir, il existe plusieurs légendes. C'est au Moyen-Âge qu'est évoquée pour la première fois l'existence de fées qualifiées de femmes blanches. Au XVIe siècle, il s'agit alors de fées malveillantes, particulièrement dangereuses pour les petits-enfants. Mais c'est au XIXe siècle, véritable vivier de légendes et de croyances populaires, que l'on retrouve le plus de traces de ces fantômes. Et ce sont ces femmes qui reviennent de l'au-delà qui vont marquer les esprits au XIXe siècle. Qualifiées de dames, ces châtelaines réapparaissent dans leur demeure après leur mort. Le vêtement blanc qu'elles reportent rappelle à la fois le suaire dans lequel elles enveloppaient traditionnellement les défunts, mais aussi l'innocence de ces victimes, souvent mortes dans des circonstances tragiques. Voilà, c'est fini et je suis très contente d'avoir partagé cette chronique auprès de vous. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur.
Merci beaucoup pour cette chronique. J'aurais une petite question. Cette légende urbaine, elle nous viendrait d'où ? C'est où qu'on en a entendu la première fois parler ?
C'est au Moyen-Âge. Après, je sais pas exactement où.
Ok.
Maintenant, on continue avec Bertrand Cantat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui fait froid dans le dos. Celle de Bertrand Cantat. En juillet 2003, Marie Trintignant était à Vilnius, en Lituanie, pour tourner un téléfilm sur la vie de Colette, dirigé par sa mère Nadine Trintignant. Sur place, elle résidait à l'hôtel avec son compagnon Bertrand Cantat. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, une violente dispute éclate entre les deux amants. Le chanteur frappa à plusieurs reprises, la laissant inanimée dans la chambre. À la suite de l'altercation, la comédienne tomba dans un coma profond. Ne mesurant pas la gravité de l'état de son ami, ce n'est qu'à 8 heures du matin que le chanteur Noir Désir se décida enfin à appeler les secours. L'archive en tête d'article diffusée le 28 juillet 2003 revenait sur les premiers éléments connus de cette affaire, ce que l'on n'appelait pas encore féminicide. Au téléphone, le chirurgien qui avait opéré son hématome parlait d'un coma profond et de respirateur artificiel. Le commentaire évoqua une violente dispute. Il aurait poussé l'actrice. Marie Trintignant serait tombée par terre en se cognant la tête. Au cours de l'enquête, le chanteur très abattu continue à clamer son innocence. Selon lui, une querelle avait mal tourné. Cependant, l'autopsie révéla rapidement qu'elle n'avait pas reçu une seule gifle, mais bien plusieurs coups très violents. Il fut accusé de coups et de blessures ayant entraîné la mort et non-assistance à personne en danger. Merci de m'avoir écouté et je tiens à préciser qu'il y a une très bonne série sur Netflix qui est sortie sur cette enquête.
Eh bien, c'est une histoire qui fait froid dans le dos.
Merci beaucoup, Stella, pour cette histoire. Et est-ce que tu sais, ça a été quand que ça a été découvert?
En fait, ils l'ont re-été sur l'affaire quand ils ont su comment elle était morte. C'est-à-dire, c'était en 2003, on est en 2025.
Et il a été en prison?
Oui, forcément, ouais. Parce qu'ils ont mis non-assistance à personne en danger et blessures, coups et blessures entraînant la mort.
Mais je veux dire, c'était volontaire ce qu'il a fait? Ou c'était pas sûr, il avait des problèmes mentaux ou...
Ils ont mis que... En plus, il y a une histoire aussi où son autre femme, son ex-femme, elle s'était suicidée à cause de lui. Donc il avait déjà des antécédents avec la police.
D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Et maintenant, pour nous remettre dans le bain, on passe avec Blackpink de Maëlia et Juliana.
Bonjour tout le monde, moi c'est Maëlia et à côté de moi, il y a Juliana. Nous allons parler du fameux groupe de K-pop, les Blackpink, qui ont plus de 96 millions de fans.
Les Blackpink sont composés de 4 membres. Il y a Lisa, Rosé, Jisoo et puis Jennie.
Moi j'aime bien ce groupe car j'adore les musiques K-pop. Ma chanson préférée c'est Shutdown. Et toi, quelle est ta chanson préférée?
Oh, il y en a beaucoup. Mais je pense que moi j'adore plus Pink Venom car j'aime bien cette musique.
Tu savais que toutes les chanteuses ne sont pas coréennes?
Quoi? Comment ça?
Oui, Lisa est thaïlandaise et Rosé est australienne.
Waouh! Tu veux que je te raconte un truc?
Ouais, vas-y.
Tu sais que les Blackpink, quand elles ont commencé leur carrière de musique, à un de leurs concerts, plus précisément en Australie, une des membres de Blackpink, Jisoo, s'est effondrée par terre. Elle a fait un malaise car leur agence leur mettait beaucoup trop de pression car l'agence avait estimé toute leur fortune sur elle.
Et c'est vrai que tu as assisté à un concert de Blackpink?
Oui, c'est vrai, c'était incroyable. J'étais hyper heureuse de les voir entrer, mais il y avait beaucoup trop de monde. Rends-toi compte, Maëlia, que quand le concert a commencé à 20h, on était déjà à 14h.
Oh, la chance! Et pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, nous allons terminer avec Bombaya, créé le 8 août 2016. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clap, bada bing, bada boom. When it bop, chime in, go deny, bada boom. Could you ask her? No, you got it, oh. When the numbers are the cold, pick up, pang, pang, pang. Pang, pang, bada, bada, pang, pang, pang. You can never be a trick, better, dun, dun, dun. Hands up. Ness on the bottle full of honey, nigga, my love, my dust, don't get a naya. Jenny.
man. Middle finger up, F you pay me. 90s baby, I pump off the jam. 달려봐 달려봐 오빠야 Lambo. 오늘은 너와 나 젊음을 Gamble. 감이나 막지마 혹시나 누가 날 막아려 I'ma go brrr Rambo.
Radio Louise Michel, la radio du collège au CDI.
Et maintenant, une autre chronique sur l'île de Tenerife.
Bonjour à tous, je vais vous présenter une petite île en Espagne, Tenerife, où j'ai eu la chance d'y aller. Il faut savoir que sa superficie est de 20 000 km². Elle est bordée par l'océan Atlantique et est constituée de volcans et de très peu de végétaux. La population de Tenerife s'élevait à 1 million d'habitants et il y a aussi beaucoup de touristes. Tenerife, comme toutes les îles des Canaries, est peuplée par les Guanches, les premiers habitants des Canaries. En 1483, les habitants de la Grande Canarie, l'île voisine, se rendent aux Espagnols. Et Tenerife reste la dernière grande île à résister à cette conquête. On peut voir des baleines tropicales et des dauphins entre Tenerife et Gomera. Le drapeau est constitué de bleu marine et de blanc. Le bleu marine signifie la mer et le blanc, la neige qui recouvre le mont Ted, qui est le volcan le plus grand de Tenerife, où on peut faire des balades jusqu'à son cratère à 3718 mètres. Les symboles de Tenerife sont le pinson bleu, un petit oiseau gris et blanc, et le draconier des Canaries, une espèce de plante à fleurs. La capitale de Tenerife se nomme Santa Cruz de Tenerife. Elle est située dans le nord de l'île. Elle est également l'une de ses deux capitales avec Las Palmas de Gran Canaria, jusqu'en 1927 où les Canaries furent séparées en deux provinces. Elle était la seule capitale dans tout l'archipel. Et enfin, je vais vous présenter des plats typiques de Tenerife, les tapas argus camdas et le repas vieja à la base de viande déchiquetée, en particulier de poitrine de bœuf. Dans certaines régions, on y ajoute des tomates et des tranches de boudin noir. Les tapas argugadas sont des pommes de terre avec de la sauce mojo qui est constituée de poivron rouge, d'huile de colza, de vinaigre de vin rouge, de piment de paprika et du cumin. Ce sera la fin de ma chronique. On se retrouve la prochaine fois.
Coup pour cette chronique. Mais une petite question, comment c'était tes vacances ?
Bah, c'était très bien.
Qu'est-ce que tu as fait de particulier ?
J'ai pris un bateau et du coup j'ai vu les baleines globifaciales tropicales. J'ai visité, j'ai fait des balades autour du volcan et je me suis baignée parce que l'eau était très bonne. Voilà.
Cool, mais t'avais pas eu peur un peu au volcan ?
Au volcan, non, même s'il n'était pas encore éteint, non.
Et sinon, comment tu t'es entendu avec les personnes du coup de là-bas, les autochtones ?
Là-bas, on parle en anglais et en espagnol, mais moi, j'ai parlé aucun mot.
Ok, merci pour ce voyage. Et maintenant, une chronique sur Kaiser, le pigeon voyageur de la Première Guerre mondiale.
Des souvenirs des champs de bataille du monde entier se trouvent dans notre division de l'histoire politique et militaire. Unique parmi eux se trouve un pigeon allemand monté. Il s'appelle Kaiser et son histoire est unique dans les annales de l'histoire des pigeons militaires. Il deviendra l'un des prisonniers de la guerre les plus anciens de l'histoire américaine et l'un des pigeons les plus anciens jamais élevés en captivité. Mais comment un oiseau de guerre allemand est-il venu vivre au Musée national de l'histoire américaine ? L'histoire de Kaiser commence à Koblenz en Allemagne dans la première semaine du février 1917. Là, dans le loft de Hans Zimmermann, un jeune pigeon au squeaker éclose. À l'âge de 5 jours, une petite bande d'identification en aluminium est placée sur sa jambe gauche, portant la couronne impériale allemande et marquée 17-0-3-3-5-0-47. 17 indiqué l'année de naissance. Au bout de 6 semaines, il retourne ce jeune pigeon au représentant de l'armée impériale allemande. Pendant la Grande Guerre, les pigeons se sont relevés essentiels dans la guerre des tranchées. Des tirs d'artillerie massés ont fait plus de victimes que n'importe quelle autre arme. Et la communication entre les forces et les tranchées et celle des zones en arrière était essentielle pour éviter la perte amicale. Le feu d'artillerie pouvait couper les fils de communication et empêcher les coureurs humains d'apporter des messages aux échelons supérieurs. Mais les pigeons de rallye étaient une solution fiable, fonctionnant rapidement malgré les bombardements, la poussière, la fumée et le mauvais temps. Après un mois d'entraînement, en tant que pigeon guilleur, l'oiseau sera un jour connu sous le nom de Kaiser et commence à envoyer des messages pour les troupes allemandes de Kaiser dans le nord de la France en avril 1917, juste au moment où Kaiser entre dans l'armée allemande. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Peu de temps après être engagé dans la guerre des États-Unis, en mars 1918, le service pigeon du Signal Corps commença ses opérations en France quand le général John G. et les Américains Expeditionary Force ont lancé l'offensive massive de la Meuse-Argonne. Le 26 septembre, 442 pigeons américains ont servi les Deutschbof qui ont avancé contre les lignes allemandes. La nuit d'Halloween 1949, Kaiser décède à Fort Monmouth. Il a survécu à la fois à son homonyme Kaiser Wilmed et à tous les autres pigeons qui ont servi pendant la guerre mondiale. Sa lignée a fourni les États-Unis avec d'innombrables pigeons se moquant de la Seconde Guerre mondiale. Pendant les combats en octobre, les troupes américaines capturent les prisonniers et le matériel allemand, y compris les pigeons. Parmi l'équipement ennemi que les Américains ont pris, était un jeune panier à pigeons allemands avec 10 pigeons, dont le jeune Kaiser. Lorsque la guerre s'est terminée, moins d'un mois plus tard, le 11 novembre, Kaiser est resté confiné dans un grenier à pigeons avec ses collègues capturés, son destin indéterminé. Je tiens à vous dire une petite anecdote sur mon ancien prof. Il s'appelait Monsieur Desto et ses arrière-grands-parents avaient connu la guerre et ils avaient plein de pigeons voyageurs qui ont failli mourir. Et en fait, il y avait des voisins, ils les ont prévenus que les Allemands allaient venir et tuer tout ce qui bougeait. Donc ils sont vite partis et ils ont laissé tous les pigeons, donc tous les pigeons sont morts, mais les grands-parents ils sont restés vivants. Merci de m'avoir écouté.
Merci Stella, mais c'est trop dommage qu'ils soient morts.
Bah c'était quand même en 1949 qu'il est mort, on est en 2025.
Ah, d'accord.
Il n'aurait pas pu vivre autant d'années.
Et merci pour cette chronique, franchement j'ai appris quelque chose. Je savais même pas qu'il y avait des pigeons qui avaient été utilisés pour la Deuxième Guerre mondiale pour l'envoi de messages. Franchement c'est dingue. Très ingénieux.
Et maintenant, on laisse les plumes et on passe au poil.
Bonjour, je m'appelle Andrea et aujourd'hui je vais vous parler de l'ours polaire. L'ours polaire est un animal qui demande de l'attention. Il faut qu'on le respecte comme il est. L'ours polaire a besoin de vivre dans des conditions froides. Sa fourrure est adaptée pour vivre à l'endroit le plus froid dans la Terre. Sa taille est imposante. Il pèse plus de 150 kg. Ce qui fait de lui un super prédateur. Il peut attendre plus d'une semaine pour avoir sa proie, qui est généralement un phoque. Il attend près d'un trou, avec patience, qu'un phoque remonte. On peut apercevoir la plupart du temps un renard polaire auprès de lui qui se nourrira des carcasses de la proie laissée par l'ours.
Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.
Merci pour cette chronique super intéressante sur les ours polaires. Ah là là, quelle pauvre espèce. Si je me trompe pas, du coup, c'est une espèce en voie d'extinction. On espère qu'ils vont se porter bien. Et on passe à une chronique tout de suite sur les...
Sur Funky Town.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la chanson Funky Town. Cette chanson de disco funk a été écrite par Steven Greenberg du groupe Limps Inc. en 1980. Elle est célèbre et elle est mise quelquefois dans les boîtes de nuit. C'est un grand classique du disco. Elle est parfaite pour danser le disco. Elle est connue grâce à ce son électro très reconnaissable au début et les paroles sont chantées par Cynthia Johnson. Cette chanson est une des premières pistes de l'album Mouth to Mouth, un des premiers albums du groupe. Juste une petite parenthèse, cette chanson est ma sonnerie de téléphone. C'est une chanson qui fonctionne bien en sonnerie, donc je vous la conseille. Funky Town veut dire la ville joyeuse, que j'imagine comme la nuit à Singapour, avec une très grande et très haute tour au centre-ville, qui est le collège, avec des gens toujours habillés en costume, et toutes les nuits de la musique électro et du disco. On se donne tous rendez-vous à Funky Town. Et vous, comment l'imaginez-vous cette ville funky? Voilà, c'était Arthur, et on se retrouve pour une prochaine chronique. À bientôt! Et bon après-midi sur Radio Louise Michel.
Take me to Funky Town.
ben merci beaucoup Arthur pour cette chronique incroyable. Petite dédicace à mon papa qui aime beaucoup cette musique. Et maintenant, on passe à Lenny et le basket.
Salut à tous, je m'appelle Lenny et je vais vous raconter l'histoire de mon sport, le basketball. Basket, ça veut dire panier en anglais. Et en 1891, dans un gymnase américain, un homme a suspendu deux paniers, ou baskets, à 4 mètres de haut. Puis, il a demandé à ses élèves de tirer dedans avec un ballon. Cet homme, c'est James Naismith, l'inventeur du basketball. Il a inventé ce sport pour maintenir la condition physique de ses élèves durant l'hiver. Le sport devient rapidement populaire et se développe dans les universités et écoles secondaires en Amérique du Nord au début du siècle. La FIBA, la Fédération Internationale du Basketball, est créée en 1932 et le sport est inscrit au programme des Jeux Olympiques en 1936. Et ce n'est qu'en 1946 qu'est fondée la principale ligue professionnelle masculine des États-Unis, la NBA, où toutes les stars du basket ont fait exploser la popularité de ce sport, qui est devenu un véritable show à l'américaine. Tout le monde connaît ce sport, mais est-ce que vous connaissez vraiment ses règles ? Le basketball, fréquemment désigné par son abréviation « basket », est un sport collectif de balles opposant deux équipes de 5 joueurs sur un terrain de forme rectangulaire. L'objectif de chaque équipe est de faire passer un ballon au sein d'un arceau de 45 cm de diamètre, fixé à un panneau et placé à 3,05 m du sol, le panier. Chaque panier inscrit rapporte 2 points à son équipe, à l'exception des tirs effectués au-delà de la ligne des 3 points, qui rapporte 3 points, et les lancers francs accordés à la suite d'une faute, qui rapporte 1 point. L'équipe avec le nombre de points le plus important remporte la partie. Le basket se pratique exclusivement à la main, et les joueurs peuvent se déplacer balle en main en dribblant sur le sol ou en effectuant 2 pas maximum sans dribbler. L'équipe en possession du ballon, l'équipe qui attaque, tente d'inscrire des points en réalisant des tirs, des doubles pas ou des dunks, tandis que l'équipe adverse essaie de les empêcher en défendant et en réalisant des interceptions de ballon ou des contres. Si le tir échoue, les joueurs des deux équipes tentent d'attraper la balle au rebond. Je vais vous citer plusieurs stars qui ont aidé à la popularisation du basket, comme Wilt Chamberlain et Bill Russell dans les années 1960, puis Larry Bird, Magic Johnson et surtout Michael Jordan, très souvent considéré comme le plus grand basketteur de l'histoire. Puis, Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry, Scottie Pippen, Victor Wembanyama et Tony Parker, le premier Français à entrer dans la NBA. Vous l'aurez compris, je suis passionné de ce sport. J'en joue en club à Saint-Martin-de-Londres en catégorie U13 et U15. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.
Eh bien, on avait un grand connaisseur avec nous. Franchement, belle chronique, ça se voit que c'est un sport que tu connais bien. Et tout de suite, on continue avec le sport, avec Raphaël qui va nous parler du Rubik's Cube.
Le Rubik's Cube, vous connaissez ce petit cube, c'est un casse-tête que l'on peut tourner à l'infini, sauf s'il vous le cassez bien sûr. En tout, il y a 43 trillions de mélanges possibles sur ce petit cube. Je ne sais pas si vous savez, mais vous avez plus de chances de gagner à Euromillion 3 fois que de résoudre le Rubik's Cube au hasard. Il y a plus de 100 types de Rubik's Cube, tous plus bizarres les uns que les autres. Le Rubik's Cube que vous connaissez tous, c'est le 3x3. Mais il y en a plein d'autres, comme le 2x2, le 4x4, le Pyraminx, etc. Si vous entendez parler du 100x100, sachez qu'il n'a jamais existé. Le Rubik's Cube avec le plus de facettes est le 34x34. Au niveau professionnel, le Rubik's Cube devient un sport. Des compétitions sont organisées dans l'ensemble du monde par la WCA, l'Association Mondiale de Rubik's Cube. Dans ces compétitions, les participants font des temps autour des 15 secondes, mais certains temps descendent en dessous des 4 secondes. Je ne sais pas si vous savez, mais le Rubik's Cube est le casse-tête le plus vendu du monde. Sinon, merci de m'avoir écouté et à bientôt.
Et Raphaël, étant un grand sport de compétition, est-ce que je peux te poser une petite question ? Mais du coup, est-ce qu'il y aurait de la triche dans le Rubik's Cube ? Enfin, est-ce qu'il peut y en avoir ?
Habituellement, oui. Il y a même un record du monde qui a été fait comme ça. Mais ça se remarque assez vite parce que quand la triche est parce qu'il y a des techniques pour faire le Rubik's Cube. Et quand il y a de la triche, bah, ça se remarque assez vite. Parce que les gens n'utilisent pas pas des techniques qu'on connaît ou des trucs comme ça. Et alors on leur demande de résoudre un Rubik's Cube avec la même technique. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils ont triché. Et c'est souvent des mélanges faits à l'envers ou des trucs comme ça. Mais souvent, dans les compétitions, les Rubik's Cubes sont mélangés par des robots. Mais des fois, les Rubik's Cubes peuvent être remplacés.
Ok. Moi aussi, j'ai une petite question. T'es sûr que c'est un sport ?
Ouais. Ça à part si on en fait... ça dépend de comment on en fait. Parce que si on en fait autour des 3 minutes, ça devient plus trop un sport. Mais c'est un sport mental plutôt.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des équipes qui font ça, par exemple ?
Des
clubs ?
Il y a des clubs, mais j'ai essayé de regarder si on avait en France, mais j'en ai pas vraiment trouvé. Mais sinon, il y a quelques équipes, je crois qu'il y a des équipes mondiales, parce qu'à un moment, j'ai regardé les championnats d'Europe, et il y avait des équipes dans le monde.
Ok, merci beaucoup Raphaël. Et maintenant, on passe avec Arthur et l'escalade.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sport de hauteur, l'escalade. J'ai commencé ce sport il y a quelques mois et il me passionne. L'escalade, également appelée grimpe ou parfois varap, est une pratique et un sport consistant à progresser le long d'une paroi pour atteindre le haut d'un relief ou d'une structure artificielle. Il y a différents types de parois. On pourrait citer beaucoup de types d'escalade différents, la voie, la grande voie, le deep water et encore d'autres. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des deux grands types d'escalade, car oui, on peut faire de l'escalade en salle, donc en intérieur, ou alors en extérieur. L'escalade en intérieur est une pratique sportive de l'escalade, sur des structures artificielles qui tentent de reproduire les sensations de l'escalade sur rocher, mais dans un environnement urbain. L'escalade en extérieur peut offrir une expérience différente de l'intérieur en escaladant des lieux iconiques comme des murs d'anciennes carrières. Avant de commencer à grimper, il faut toujours observer la paroi pendant plusieurs minutes. Cela sert à savoir quel chemin emprunter. Ça sert à moins s'épuiser une fois sur la paroi. Et si après avoir monté la moitié de la paroi et que vous avez oublié le chemin à prendre, il est toujours conseillé d'avoir quelqu'un en bas qui peut vous indiquer la prochaine prise à prendre. Car oui, quand on est en haut, il n'est pas simple de garder son calme et de se concentrer. Si vous voulez grimper confortablement ou en sécurité, voici le matériel indispensable. Les chaussons d'escalade seront indispensables si vous voulez grimper, car il est plus facile de monter en chaussons d'escalade qu'avec de simples chaussures. Le baudrier vous sera indispensable si votre pratique d'escalade ne se limite pas qu'au bloc. Il va falloir vous acheter un baudrier, et pour les 2-3 du fond qui ne connaissent pas le bloc, c'est une pratique qui consiste à grimper de faible hauteur sans être attaché à une corde. La corde va de pair avec le baudrier, car sans corde, le baudrier ne vous servira à rien. Le casque vous sera utile si vous ne pratiquez l'escalade qu'en salle. Il a deux rôles. Il vous protège si vous tombez, mais aussi en cas de chute de pierre ou de matériel. J'espère que cette chronique vous aura plu et nous, on se retrouve sur les voies.
Eh bien, merci pour cette chronique sur l'escalade. On va avoir la dernière chronique de la journée qui va être sur de la musique avec Soldat Louis de Mélanie.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un groupe de rock qui s'appelle Soldat Louis, qui est formé en 1987 de la rencontre de deux Lorientais, Renaud Détressant, alias Gary Whitman, petit-fils de Théodore Bordel et Serge Janet, que ses copains de Bordel appellent familièrement Soldat Louis. Serge, qui est guitariste, accompagne au départ Gary, qui connaît la gloire au début des années 1980. Après la chanson « On est comme on est » sorti sous son nom. Lorsque Gary lui propose de chanter un de ses textes, il se produit sous son pseudonyme. Ils se nourrissent de leur influence pour créer leur musique. Serge Danet, guitariste, Jean-Paul Barrier, clavier, Renaud Détressant, guitariste, Anthony Marcian, cornemuse. Souffle pendant un certain temps dans leur cornemuse avec Soda Louis. Le groupe Soda Louis a 4700 fans, 10 albums et 7 singers. Le groupe Soda Louis continue de faire des concerts depuis 38 ans. J'ai découvert le groupe Soda Louis dans la voiture, mon père la mettait quand on allait faire des balles et à force qu'il la mette, je l'ai bien aimé. Et voilà, cette chronique est terminée, au revoir.
Ok, merci beaucoup Mélanie. Mais petite question, est-ce qu'il existe encore ce groupe ?
Oui, il existe depuis 38 ans.
D'accord, ok. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et une petite parole, hello.
Bah non, pas spécialement. Merci à toutes et tous les chroniqueurs pour leur chronique superbe sur les sports et la musique et toutes les autres chroniques proposées. Et à bientôt pour de prochaines chroniques.
Merci, au revoir. Tu connais la chanson du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu, un accordéon.
fait une paye qu'on n'a pas touché terre. Et même une paye qu'on se fait des gonzesses en poster. Tant pis pour celle qui se pointera la première. Je lui démonte la passerelle, la cale la dunette arrière. Plus homme des femmes et de la bière non de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Plus homme des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé de mieux. Tout est gravé quelque part sur ma peau. Tellement que j'en ai les bras comme des romans photos. Blessure de guerre, cul de bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé de mieux. 3000 du cap, c'est les foies, c'est les glandes. Quand t'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent. J'essaie de penser aux claques, aux filles qui s'impatientent. Pas au bateau qui craque entre deux déferlantes. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé de mieux. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Qui rend heureux, que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé de mieux.
Radio Louise Michel.
Radio Louise Michel.
La radio des collégiens de Gorge.
Radio Louise Michel, des blagues, des musiques, des infos, des interviews et encore plein d'autres choses sur Radio Escapade.